Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. Qui que vous soyez, quoi que vous soyez, la grâce, la miséricorde et la paix vous sont données par Dieu le Père en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Alors nous pouvons nous présenter ensemble devant Dieu avec le premier chant que vous trouverez dans le petit livret liturgique au début du psautier français. Réjouissons-nous au Seigneur. Criez de joie pour Dieu, il est notre force. Acclamez le Dieu de tous. Jouez musique, frappez tambourin, harpe, cithare mélodieuse. Sonnez du cor pour l'an nouveau quand revient le jour de la fête. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait tes épaules. Tes mains ont ôté mon fardeau. Oui, criez de joie pour Dieu, notre force. Acclamez le Dieu des générations. Alors je vous propose de chanter à la gloire de Dieu le psaume 67, donc c'est la deuxième version, la version B. Que Dieu nous bénisse et nous garde, lui dont la joie est de donner. Vous pouvez prendre place et après avoir ainsi accueilli la présence en nous de ce Dieu qui nous donne la vie, c'est très chaleureusement que je voudrais souhaiter la bienvenue et puis aussi tous nos voeux de bénédiction pour cette année qui s'ouvre. Merci d'être ici pour qu'on puisse chercher ensemble qu'est-ce que Dieu désire nous apporter comme parole, comme élan nouveau. Alors bienvenue à Michel Dumoulin qui a souhaité faire donc sa profession de foi parmi nous ce matin. Et pour nous, eh bien, c'est vraiment une force, un témoignage eh bien, qui est précieux voilà, pour commencer cette année avec ce beau témoignage. Voici les 10 paroles qui nous ont été données pour vivre selon le livre donc, de l'Exode et du Deutéronome. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a libéré de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image pour te prosterner devant elle et pour les servir. Tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne tromperas pas ceux qui te font confiance. Tu ne feras pas de vol. Tu ne diras pas de mensonge contre ton prochain. Et tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Et voici comment Jésus-Christ a résumé toute cette loi dans cette seule parole. Écoute, le Seigneur ton Dieu, c'est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier, le grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Alors face à cet idéal infini de l'amour de Dieu, nous pouvons reconnaître devant lui que nous avons bien besoin de son aide pour avancer. Alors je vous propose de le faire en priant du cœur ce psaume de David. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché et ma faute est toujours devant moi. Contre toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait, mais tu veux au fond de moi la vérité, la fidélité. Et dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Alors purifie-moi et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête, et ils danseront les eaux broyées. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, mon Dieu. Renouvelle et affermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint, mais donne-moi la joie d'être sauvé. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui, tout simplement, la certitude de son amour infini pour nous et la grâce d'une vie vraiment ressuscitée, joyeuse, forte, qui avance. En effet, vous qui avez faim et soif du pardon de Dieu, vous êtes heureux car il vous pardonne avant même que vous ayez rien dit. Vous qui avez faim et soif de sa présence, vous êtes heureux car en Christ, il vient demeurer parmi nous, il vient demeurer en nous, nous fortifier et nous guider. Vous qui avez faim et soif d'amour vrai, vous êtes heureux, car notre Père nous bénit et nous garde en Jésus-Christ. nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Vous pouvez prendre place. Alors bienvenue Michel. Vous avez demandé à faire une profession de foi parmi nous ce matin et c'est avec grande joie que je vous accueille. Merci, bravo pour ce parcours riche d'expériences humaines et de foi aussi. Vous avez toujours senti cet amour de Dieu qui vous accompagnait et puis cette possibilité de s'adresser directement à lui sans crainte. Alors malgré toutes les images que peuvent véhiculer malheureusement nos églises et puis tant d'images finalement d'un Dieu terrible, d'un Dieu dont on devrait avoir peur, qui nous attend au virage pour nous juger, pour nous envoyer en enfer, au purgatoire ou je ne sais quoi, un Dieu terrible dont nous devrions avoir peur, non. Vous avez bien senti cet amour de Dieu qui vous accompagne, un Dieu qui se vit finalement tout simplement dans la rencontre d'un cœur qui se tourne vers lui. Et puis vous avez trouvé l'oratoire où vous vous sentez, comme à la maison, sur le site internet d'abord, et puis même ici parmi nous. Alors c'est aujourd'hui vous qui nous régalez par cette présence. Alors je vous invite à me rejoindre ici au milieu. Oui, vous nous apportez ce courage de se lever parmi tous et puis de dire ce matin, cette foi dans ce Dieu qui nous rassemble et qui nous fait vivre. Alors c'est une joie et un honneur pour nous. Alors à vous tous, je vous propose de vous lever pour vous unir à cette confession de foi chrétienne qu'a préparée Michel.
Je crois en Dieu, créateur des cieux et de la terre. Je crois en Dieu, créateur de la vie. Dieu, je crois dans ton Fils, Jésus, notre Seigneur, que tu nous as envoyé pour nous délivrer ton message et nous donner l'envie d'aller à ta rencontre. Dieu, toi Seigneur de la création, mon ami, mon confident, je crois en l'Esprit Saint qui est en nous et qui nous mène vers ta grâce et ton royaume. Dieu, toi Seigneur de bonté, mon ami, mon réconfort, je crois dans la Bible et dans l'Évangile qui abreuve notre soif d'aller à ta recherche, de te découvrir, de marcher dans ta vérité et de t'aimer. Dieu, toi Seigneur divin, mon ami, mon guide, merci. Merci de nous avoir offert la vie. Nous t'en rendons grâce aujourd'hui. Amen.
Grand merci, Michel. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Amen. Vous pouvez prendre place. Alors croire en Jésus-Christ, c'est mettre sa confiance en lui car il est notre sauveur. Et puis c'est chercher à le suivre car il est aussi finalement un cheminement qui nous est proposé, qui est ouvert devant nous, un cheminement qui vaut la peine d'être suivi. Alors Michel, avec le secours du Saint-Esprit, vous vous efforcez sincèrement à vivre en chrétien dans ce monde, en aimant Dieu de tout votre être, et puis en cherchant à servir votre prochain, selon les occasions, selon vos talents propres. Et puis vous avez soin aussi de votre développement personnel, donc bravo et merci. Finalement, la vie n'est pas plus compliquée que cela. Michel, vous avez reçu autrefois le baptême, et donc nous ne refaisons jamais un baptême, puisque le baptême est le signe d'une grâce que rien ne peut remettre en cause. Et puis nous reconnaissons que l'Église, finalement, avec un E majuscule, est bien au-delà, je dirais, des limites, des chapelles, des frontières, des confessions de foi particulières, des différentes églises. Et donc, tout baptême chrétien est pour nous le baptême en Jésus-Christ. Alors, vous avez autrefois reçu le baptême, c'était vraiment le signe de l'amour que Dieu manifestait en Jésus-Christ pour vous. Vous avez confirmé cette grâce par votre foi, donc nous vous recevons avec grande joie dans l'Église chrétienne, l'Église universelle. Et c'est vrai que pour nous, c'est une joie que vous ayez choisi l'oratoire, notre Église, pour inscrire donc ce cheminement dans l'Église. Oui, Dieu vous bénit et vous garde. Il éclaire votre route par sa parole. Il vous donne la paix par sa présence. Il vous donne d'être une bénédiction pour ceux qui vous sont confiés. Et pour cela, oui, que le Saint-Esprit affermisse votre foi, qu'il vous accorde ses dons et qu'il vous les renouvelle jour après jour. Alors merci pour vos proches qui sont venus aussi, pour leur ouverture d'être présents ici dans cette église que vous avez choisie. Cela aussi, eh bien, nous donne de la force. Nous prions Dieu. Ô notre Dieu, merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour, en particulier voilà, pour cette possibilité d'être avec toi, de s'adresser à toi et de recevoir cet esprit que tu nous donnes au plus profond de notre être, nous assurant de ton amour pour nous et nous permettant de grandir et d'avancer. Merci pour le Christ qui ouvre un cheminement devant toi, vers toi, devant nous, et nous fait aimer ce monde et ses habitants. Oui, Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Michel que nous avons accueilli parmi nous. Nous te le remettons avec ceux qui lui sont chers. Qu'il grandisse avec ceux qui sont autour de lui, qu'il grandisse encore et nous avec lui, nous grâce à lui, dans tout l'amour que tu nous donnes en Jésus-Christ. Que ta joie, ô notre Père, soit notre force. Amen. Merci Michel.
Pour cette année 2016, cette nouvelle année, après une année 2015 qui a été quand même un peu dure, j'ai pensé vous lire ce passage de l'Évangile qui commence mal, par des actualités peu réjouissantes, mais qui se termine sur cet appel que lance le vigneron, « Maître, pardonne encore cette année ». Alors c'est au chapitre 13 de l'Évangile selon Luc, les 9 premiers versets. Quelques personnes vinrent raconter à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate, le gouverneur romain, avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Il leur répondit : Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour qu'ils aient souffert de la sorte ? Eh bien non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de mentalité, vous périrez tous de même. ou bien ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de mentalité, vous périrez tous de la même façon. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Eh bien, coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Maître, pardonne-lui encore cette année. D'ici là, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Alors bien sûr, quand Jésus prononce cette parabole du figuier qui ne porte pas de fruits, chacun des auditeurs de cette parabole entend une allusion à une des paraboles les plus connues de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque, c'est le chant de la vigne, le chant du bien-aimé, dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 5. Voici ce que dit l'Éternel selon Ésaïe. Voici donc, je chanterai à mon ami le chant de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il la laboura, il ôta les pierres et il y planta un cépage délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi un pressoir, puis il espéra qu'elle produirait des raisins. Mais elle a produit des fruits infects. Or donc maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Alors pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits infects? Or donc, je vous ferai maintenant connaître ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai des brèches dans sa clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine et elle ne sera plus ni taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y pousseront et je donnerai mes ordres aux nuages afin qu'ils ne laissent plus tomber la pluie sur elle. Or, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il aimait par-dessus tout. Il avait espéré la droiture, et voici le meurtre. Il avait espéré la justice, et voici le cri de l'injustice. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour laisser le temps à ces deux textes, un peu terrible, mais qui annonce en fait, en réalité, profondément l'Évangile, la bonne nouvelle d'un Dieu qui nous aime, je vous propose de chanter le psaume 91 dans notre psautier français, qui demeure auprès du Seigneur, les strophes 1, 3 et 5.
rouge.
Ô notre Dieu, merci pour cette vie que tu nous donnes, pour le pain que nous pouvons manger, pour ces frères et sœurs avec qui nous partageons cette vie sur terre, faisant ensemble un même corps, le corps du Christ vivant dans le service mutuel, dans la compassion, dans la confiance. Merci pour ton esprit qui rend cela si souvent possible. Nous ouvrons maintenant notre être tout entier à ce souffle que tu nous donnes, afin de trouver dans nos écritures anciennes la parole de vie que tu veux nous adresser, en particulier à chacune et à chacun, ce matin. Alors ce texte de l'Évangile montre Jésus face à la question du mal qui existe dans ce monde et comment réagir, comment garder le moral. des personnes viennent interroger Jésus sur un fait divers qui les choque. Et il y a de quoi. Donc des personnes massacrées par le gouverneur romain en plein culte rendu à Dieu. Quelle justice! Comment est-ce que Dieu a-t-il pu permettre? À quoi ça sert d'être religieux si ça ne nous protège pas des méchants? Et puis, ces personnes qui demandent à Jésus de commenter cette actualité se demandaient peut-être si Jésus n'était pas le Messie attendu. Et alors cette actualité les trouble. Que fait donc Jésus, bon Dieu? Alors Jésus en rajoute en citant une second fait d'actualité qui complète le premier finalement pour couvrir les deux grandes causes de l'existence du mal dans ce monde. La première cause illustrée par le massacre fait par Pilate, c'est la méchanceté de l'homme. Alors oui, l'homme est maître de son destin, de ses décisions, de ses actions, pour le meilleur et pour le pire. Alors pas que pour le pire quand même, il y a plein de belles choses, mais quand même, c'est choquant. La seconde chose illustrée par l'accident de la tour de Siloé, c'est le manque de chance des 18 personnes qui se trouvaient simplement là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Boum, la tour tombe, ils sont écrasés. Alors c'est la nature qui fait que tout ce qui est matériel en ce monde s'use, tombe malade et finit donc par tomber. Il n'y a donc pas que le mal dû au péché humain dans ce monde, il y a la nature aussi qui déraille en partie. Et Jésus insiste pour dire que dans les deux cas, la mort de ces personnes est effectivement injuste. Non que ces personnes touchées aient été innocentes, mais parce que personne n'est innocent de toute façon. Et qu'il existe de bien plus grands pécheurs dans ce monde que Dieu ne foudroie pas pour autant. Alors, c'est donc que la catastrophe déjà n'est pas une punition de Dieu, ni même dans sa volonté. C'est autrement que Dieu travaille. Et donc, comme le dit Jésus, oui, il faut convertir notre théologie, sinon, eh bien, ça ne va pas bien aller, en fait. Si on est dans une théologie de la crainte de Dieu qui pourrait tuer les uns ou tuer les autres, ou laisser les uns et les autres écraser, tuer, sans rien faire, on risque d'avoir une mauvaise compréhension du monde et être troublé, effectivement, et manquer le salut que Dieu apporte. Dieu est juste et il est bon. Il est source de la vie et de la justice, il plante et il arrose, il soigne les arbres malades, improductifs. Alors bien sûr, ça prend du temps, il lui faut de la patience, il lui faut une sacrée patience. Alors comment faire face aux mauvaises choses qui arrivent en ce monde? Et que fait Dieu pour nous aider? Et à quoi est-ce que ça sert de le prier? Jésus nous permet d'y réfléchir avec cette petite parabole qu'il nous raconte en transformant le champ de la vigne d'Ésaïe en une parabole du figuier qui ne porte pas de fruits. Et cette transformation qu'apporte Jésus à ces textes anciens nous appelle à amorcer une conversion, un changement dans notre façon de voir la vie et de voir Dieu, et dans notre façon de réagir face aux événements difficiles. Ésaïe exprimait déjà la douleur de Dieu face au mal qui existe dans le monde qu'il aime, le mal qui arrive malgré lui. « Je chanterai à mon ami », nous dit l'Éternel dans Ésaïe. « Je chanterai à mon ami le chant de mon bien-aimé sur sa vigne. Il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Il a tout fait pour ça, mais elle a produit des fruits infects. » Dieu aime sa création, nous dit Ésaïe, il aime l'humanité, il aime la personne humaine, il aime cet univers et cette planète où nous nous trouvons. Dieu a tout fait, tout préparé pour qu'une abondance de bons fruits puisse être produite par sa création et en particulier par ses enfants. Des fruits de justice, de bénédiction, de vie, de bonheur sont attendus, espérés. Et voici qu'il y a cela. Des tas de belles choses, mais aussi du sang versé et des cris de détresse. Alors ce chant de la vigne d'Ésaïe est un appel à ce que nous portions enfin de bons fruits, bien sûr. Sinon, Dieu va être hyper en colère et va nous retirer sa bénédiction, d'après Ésaïe, d'après sa théologie. Alors est-ce que c'est cette conversion-là, une conversion de nos actes par la peur de Dieu, est-ce bien de cette conversion-là, de nos fruits finalement, dont parle Jésus quand il nous appelle à la conversion, à nous aussi. Eh bien, pas vraiment. Pas vraiment. Jésus appelle à convertir notre idée de la conversion. Et puis de la raison de nous convertir aussi. Que fait Jésus de ce champ de la vigne d'Ésaïe ? Alors, il y a encore une vigne, mais Jésus ajoute un figuier planté dans la vigne. Jésus a entendu le désespoir des personnes qui viennent le voir, et c'est pourquoi il reprend la parabole d'Ésaïe, disant l'écart entre l'espérance de Dieu et la réalité du monde. Mais Jésus ne s'arrête pas aux fruits de la vigne, tantôt délicieux, tantôt infects. Il passe directement au figuier qui ne porte pas de fruits. Et puis enfin, Jésus ajoute un personnage de plus que dans l'histoire d'Ésaïe. Il y a un maître de la vigne, mais il y a aussi un vigneron un peu plus sympa que celui d'Ésaïe, puisque ce vigneron dit « Maître, pardonne-lui encore une année. » Encore une année. Alors comment comprendre cet écart, cette transformation ? La vigne, c'est une image qui est bien connue dans la Bible pour la vie humaine et pour ses fruits, appelant au travail de l'homme et puis à la collaboration avec la bénédiction de Dieu. L'image du figuier est un peu moins connue, bien qu'elle soit très présente dans la Bible et particulièrement en fait dans les évangiles, car c'est plutôt entre les deux testaments, finalement dans la période entre les deux testaments, que cette image du figuier s'est pas mal développée dans les milieux rabbiniques. Alors on la retrouve dans l'évangile en particulier, par exemple à propos de Nathanaël, à propos de Zachée, à propos du figuier séché par Jésus, et puis dans la parabole que nous lisons aujourd'hui. Dans la culture de l'époque de Jésus, il était classique de comparer les textes de la Bible à une figue. Les rabbins en donnent les raisons. D'abord parce que la figue, elle est pleine de minuscules pépins. Et cela fait que quand on prend un bout de figue et qu'on le plante en terre, eh bien, n'importe quel petit bout de figue est fécond, ça va pousser, donner un figuier. Et cela veut dire aussi qu'on peut manger la figue entièrement, ben, sauf la petite queue peut-être, mais entièrement la figue sans avoir de pépins ou de noyaux à recracher. Et puis qu'en plus, elle est délicieuse, elle est douce comme du miel. Et à travers tout cela, eh bien, c'est une image donc de la Bible qui est, dont la moindre lettre est féconde, qui réjouit notre palais par le miel et dont il n'y a rien à recracher, qui soit mauvais et dur. Et puis le Talmud explique aussi que dans un figuier, en toute saison, il y a toujours une petite figue cachée derrière une feuille, prête pour être mangée si l'on cherche bien. Et donc, bref, le Talmud compare fréquemment l'étude de la Bible eh bien, à un figuier. Et donc, quand on est assis sous le figuier, comme Nathanaël, ça veut dire qu'on étudie la Bible comme les rabbins, qu'on en discute. Et donc, face à l'existence du mal qui est dans ce monde, devant ces fruits infects, dont l'existence même est une surprise, tant la vigne est capable de fruits merveilleux, Jésus nous dit que la priorité, c'est d'aller soigner le figuier qui est dans la vigne. Pourtant, la question de départ est sérieuse et Jésus ne la balaye pas d'un revers de main. Il y a tant d'injustices, tant de souffrances, même s'il y a finalement fort peu de fruits infects au milieu d'une vigne, la vigne du monde, qui produit en fait tant de bons fruits, finalement. Il arrive qu'une seule grappe infecte puisse contaminer la cuve entière où se prépare le vin de demain. Donc, ce n'est pas pour rigoler, il faut effectivement se pencher sur la question des fruits infects. C'est une grave question. Jésus se penche dessus et il est loin de prendre ça à la légère. Mais la solution qu'il propose, c'est d'aller visiter le figuier qui est aussi au milieu de la vigne. Et nous l'avions peut-être un peu oublié, ce figuier, devant tous ces problèmes de grappes pourries. L'urgence face au problème du mal qui est dans le monde, c'est d'aller, comme l'homme de cette parabole, aller chercher du fruit à son figuier. D'aller travailler la Bible, d'aller interpréter, d'aller discuter des heures et des jours, voire 3 ans et encore une année de plus finalement, comme le fait Jésus en acceptant d'être le Christ pour nous. Alors c'est vrai que Jésus fait très peu la morale dans l'Évangile. Il ne s'attarde pas tellement sur les fruits. Il ne se concentre pas sur les fautes des gens, leur colère, leur paresse, leur avarice, leurs défauts, leurs péchés. Il ne se penche pas ni sur l'esclavage, ni sur la condition de la femme, ni sur nos addictions à l'iPhone. Mais il se met en route par la foi et il nous invite à se mettre en route avec lui. Et donc ici, face à la violence de Pilate, Jésus aurait pu interpeller les gens qui sont devant lui en les appelant à ne pas vivre eux non plus comme des petits Pilates. C'est ce que fait Isaïe en fait. Il les invite à changer de comportement. Suite à l'accident de la tour de Siloé, Jésus aurait pu nous faire la leçon sur le principe de précaution, sur l'arrogance des constructions humaines, ou sur la fragilité de notre existence, et donc sur l'urgence de faire aujourd'hui tout le bien, finalement, que nous pouvons faire, de dire finalement la parole juste aujourd'hui, sans attendre d'avoir à la dire. Eh bien non, finalement, face au problème de notre vigne, Jésus appelle à la conversion du figuier. Alors quand nous sommes troublés devant le mal qui existe dans le monde, Jésus nous invite à aller voir le figuier qui existe au cœur même de la vigne et de voir si par hasard notre désespoir ne viendrait pas, qu'il manquerait un peu de fruits nourrissants sur notre figuier. Alors je vois deux raisons possibles de lien entre la question de notre foi, de notre figuier, et celle des troubles qui existent dans le monde, qui sont la question du début du texte. D'abord parce que les troubles de notre comportement en tant que personne individuelle et en tant finalement que société humaine, ces troubles reposent en partie, mais d'une manière très profonde, d'une manière essentielle, sur des problèmes d'ordre spirituel. Alors, pas seulement, parce qu'il y a aussi des problèmes qui viennent de la nature, je le disais, et puis d'autres problèmes, mais même pour les maux de ce monde qui sont purement matériels, dès lors que nous sommes perturbés finalement, comme ces personnes qui viennent voir Jésus, c'est que nous sommes en fait allés trouver notre figuier et que nous n'y avons pas trouvé de fruits qui puissent nous réconforter. Nous nous sommes trouvés comme manquant de force pour arriver à retrouver le moral face à l'existence du mal. Nous avons trouvé démunis de nourriture pour arriver à avancer et peut-être qu'une angoisse nous a empêchés de voir tout le bien, toutes les merveilles qui existaient dans notre monde et en nous-mêmes, tellement nous étions écœurés par les grappes infectes. Alors, s'exprime peut-être en nous le désespoir violent du maître de la vigne qui dit « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas, coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Alors c'est vrai que quand notre théologie, notre lecture de la Bible ou notre religion sont en échec pour nous faire vivre et pour nous les permettre d'avancer avec, finalement, face aux difficultés de notre existence, la tentation est d'envoyer balader notre foi. Alors en fait, ce serait jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce serait mettre le feu à sa Maserati parce qu'elle a un pneu à plat, ou ce serait comme mettre fin à sa vie pour quelque raison que ce soit. Si notre figuier n'a pas de fruits nourrissants dont nous avons besoin face à l'existence difficile, eh bien il faut convertir notre figuier, pas l'arracher, au contraire. Il faut pardonner à notre figuier, il faut le soigner juste un petit peu, et il donnera du fruit très vite. Contrairement à la parabole d'Ésaïe où le maître de la vigne est Dieu finalement, il plante une vigne, il la laboure, il fait une tour, un pressoir, tout ça. Ici, dans la parabole de Jésus, en fait, le maître de la vigne, c'est un homme, nous dit-il. Ce maître de la vigne, c'est nous. Cet homme qui découvre qu'il a une vigne et qu'il a un figuier qu'il n'a pas eu à planter, mais que nous avons reçu comme nous avons reçu et la vie et ce monde et la possibilité finalement de penser à Dieu comme ce figuier. Et c'est peut-être là une des grandes nouveautés de l'évangile finalement, l'évangile du Christ par rapport à la vision d'Ésaïe, c'est que Jésus replace l'homme au centre et qu'il nous révèle que Dieu en fait se fait comme notre serviteur, comme ce vigneron de la parabole. Dieu n'est plus un roi dont la sévérité peut l'emporter même sur son amour, comme le dit Ésaïe. Selon Jésus, Dieu est un vigneron qui est là, éclairant finalement notre bonne conscience. Nous soufflons de nous pardonner à nous et à notre humanité et à notre monde et à notre foi, à nous pardonner encore, ne serait-ce qu'un an, puis un an, puis un an encore. Et cette attente, cette espérance, ce n'est pas attendre pour attendre, mais c'est pardonner et soigner en patientant jusqu'à voir ne serait-ce qu'un premier fruit sur notre figuier. Alors nous verrons autrement et la vigne, et ses bonnes grappes, et ses quelques raisins infects, effectivement. Et que nous, qu'est-ce que nous pouvons y faire ? Alors Jésus nous dit comment est-ce que l'on peut ainsi soigner notre figuier ? Et il nous dit ce que Dieu peut faire pour nous, en nous. Et ce Dieu dont nous découvrons en Christ le visage, ce Dieu nous appelle maître. Respectant notre intimité profonde et le fait que nous soyons maîtres de notre vie. Et ce Dieu, voilà, il nous dit, « Maître, si tu veux bien, pardonne au figuier encore cette année, et d'ici là, je creuserai tout autour de ton figuier et j'y mettrai du fumier. » Là encore, Jésus va chercher la solution du problème à la racine. Face au problème des grappes infectes, il nous appelle à soigner le figuier. Et face au manque de fruits du figuier, il nous invite à aller non pas au bout des branches en tirant dessus pour voir si ça fera venir des figues, mais plutôt à aller chercher la racine souterraine. Alors j'y vois deux raisons à mon avis. C'est que le fond du problème, effectivement, est d'ordre spirituel. Il faut de la réflexion, de l'intelligence et des choses savantes pour mieux comprendre les Écritures. Et cela, ça s'appelle aller voir son figuier. Aller voir s'il n'y a pas des fruits nourrissants pour vivre. Mais si on ne trouve pas de fruits, c'est là qu'il faut aller au-delà de cette recherche d'élévation dans le visible. C'est là qu'il faut creuser. Et creuser dans le sous-sol, creuser dans l'invisible, c'est changer de niveau de réalité. C'est accéder à une dimension de la profondeur. Creuser, c'est prier. Et c'est comme ça qu'on prend soin pas seulement de nos fruits, mais de la racine même de notre interprétation de la Bible et de la vie et de notre conscience et de ce qui peut nous mettre en mouvement, en conversion. Alors ça, c'est la première raison, je crois, qui nous appelle donc à creuser. La seconde raison qui rend nécessaire d'aller découvrir les racines, que s'il y a une racine qui est pourrie finalement, si des parasites s'y sont installés, eh bien le risque est que ça gangrène tout l'ensemble, sans que nous nous en rendions compte. Bien souvent, nous ne nous rendons même plus compte de ce que nous faisons tellement nous sommes habitués. Tellement nous nous justifions par les belles feuilles et par les fruits attendus, à force de penser ou à force de faire les mêmes choses, parce que peut-être que voilà, ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous pensons nous semble être justifié par une espérance ou par un but, eh bien, nous croyons que tout cela est bon. Ben, pas forcément. Pas forcément, il est bon de creuser par la prière et par l'étude et de voir clair les racines même de notre interprétation de la Bible, de notre réflexion, de notre façon de voir. Il est bon de creuser par la prière les racines. Alors ensuite, Jésus nous apprend à y mettre du fumier. Alors je ne vais pas le prononcer, le mot est très cru, ce sont nos excréments et tout ce qui peut nous être tombé sur la tête de sale. De dégoûtant, de honteux, de désespérant, que nous pouvons aller mettre là, dans ce trou creusé par la prière. Alors oui, je crois que notre lecture de la Bible et notre prière ne porteront des fruits que si nous y investissons vraiment nos tripes, si nous nourrissons notre prière de nos regrets, de nos larmes, de nos souffrances, de nos indignations, de nos insuffisances, de nos fautes, enfin reconnue peut-être, enfin dite, enfin avouée, devant l'amour de Dieu, c'est possible même d'aller à cela. tant que notre lecture de la Bible et notre réflexion sont un simple jeu intellectuel, cela pourra donner un bel arbre plein de belles feuilles, mais pas un seul fruit nourrissant et fécond. Pour ça, il faut creuser et y investir tout ce qu'il y a de sale. Mais souvent, nous n'avons pas la force de creuser, et nous avons souvent tellement honte de nos saletés que nous préférons ne pas même les voir, encore moins les montrer, et encore moins nous en excuser devant les autres et travailler dessus ensemble, les uns avec les autres, pour se convertir ensemble, comme le propose Jésus, plutôt que de mourir tous ensemble en en étant infectés. Mais ici, le vigneron Dieu ne dit pas à l'homme qu'il devrait creuser au pied de son figuier et y déverser son fumier. Mais Dieu lui propose de le faire en lui et pour lui. Et c'est ça qui est bien, finalement, dans l'évangile du Christ. La question, c'est tout simplement de laisser par la prière Dieu travailler, finalement, travailler en nous. Nous soigner en creusant tout autour de notre arbre de foi, d'espérance et d'amour, de creuser à la racine de notre recherche de ce qui est juste et bon pour nous, pour le monde, pour les autres. Oui, par la prière, nous pouvons laisser Dieu racler le fond de nos écuries, de nos égouts, pour nous en purifier, pour le recycler, pour nourrir une nouvelle conscience. Alors si Dieu lui-même espère en nous, espère en l'humanité, pourquoi désespérerions-nous ? Maître, nous dit Dieu, pardonne encore cette année. Embauche-moi pour soigner ton figuier, pour creuser et convertir en bénédiction tout ce qui était pourri. Alors, excellente année de grâce pour vous. Une grâce partagée où nous avancerons ensemble. Amen. Alors je vous propose de chanter dans le petit recueil « Louange et prière » le cantique 289 « Bienheureux qui t'aime, Jésus bien suprême, source du bonheur » les trois strophes de ce cantique 289. Vous pouvez prendre place pour quelques annonces. Donc, il y a un repas qui a été préparé donc, en face pour ceux qui le désireraient. Donc, c'est aux 4 rues de l'Oratoire, en face, au 2e étage. Sinon, demain soir, il y a donc le grec biblique des progressants à 19h30 et à 20h, il y a donc notre séance d'approfondissement théologique. Le sujet du jour, c'est la Trinité. Mardi soir, à 19h30, il y a le grec biblique pour débutants. Mercredi, le grec biblique pour les groupes des avancés. Jeudi, à 19h30, il y a la répétition du chœur qui recrute donc des chanteurs, des chanteuses à tous les pupitres. Bien sûr, comme toujours, c'est surtout des hommes qui sont espérés, attendus. Vendredi à 12h30 ici, il y a donc les heures musicales, il y a un récital d'orgue de 12h30 à 1h30 avec Benjamin Prat qui nous donnera donc de l'orgue. Et puis vendredi, donc ici même à 19h, il y a organisé par la mairie du premier et puis par l'ambassade d'Égypte une prière de paix, vivre ensemble. Parce que cette année, enfin l'année dernière, si je puis dire, il y a eu la coïncidence rare entre Noël, donc où nous célébrons symboliquement la naissance de Jésus, et puis la date de naissance donc de prophète Mohammed. Et donc, il propose donc ce temps de prière avec des chants de Noël d'enfants et puis des chants donc musulmans égyptiens. Alors, c'est sur inscription. Donc, si vous pouvez envoyer un mail, on vous mettra sur la liste des personnes qui seront filtrées pour des raisons de sécurité. Donc, prière de paix, vivre ensemble ici à 19h, sur inscription. Samedi 9. Ici, il y a à 16h, il y a le groupe où on peut chanter avec le chœur pour préparer le culte du lendemain. Donc ici à 16h. Et puis à 18h ici même, il y a un temps de prière silencieuse, de prière liturgique, qui est une façon peut-être de s'entraîner à la prière les uns par les autres. Donc un petit groupe qui se réunit ici maintenant à peu près tous les 15 jours, mais on peut aller à une seule séance si on le désire. Ça, c'est samedi, donc ici à 18h. Dimanche, il y a le culte, bien sûr, présidé par mon collègue James Woody, et puis l'éducation biblique avec les enfants de tous les âges. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. Donc, nous recevons tout gratuitement de la part de Dieu. Donner est un signe de louange et de reconnaissance. Nous prions Dieu. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Et là où il y a des ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô éternel Dieu, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, et vivre ainsi cette vie éternelle que tu donnes à tes enfants. Accorde les mêmes grâces à ceux qui nous sont chers et unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service et dans la communion avec tous les chrétiens de tous les horizons, de toutes les églises. Nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas enfermer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui, grâce te soit rendue, ô notre Dieu, source de vie. Amen.